Une des façons dont Dieu s'y prend pour changer notre façon de vivre, c'est lorsque nous entendons sa parole, c'est lorsque cette parole, elle prend racine dans nos cœurs, progresse, y demeure à jamais et qu'elle continue à nous interpeller au quotidien. Nous ne pouvons pas chasser de nos cœurs, hein, nous ne pouvons pas chasser cette parole de nos cœurs parce qu'elle s'est enracinée en nous. Et on ne sait pas pourquoi, souvent il y a des versets qu'on retient plus facilement que d'autres. Il y en a d'autres qu'on doit continuellement méditer ou mémoriser pour qu'ils puissent revenir dans nos cœurs. Mais il y a des versets qui de façon particulière, eh bien, restent enracinés dans nos cœurs. Et en fonction des expériences de vie que nous vivons, eh bien, le Saint-Esprit remonte à la surface ces versets qui nous font énormément de bien, qui nous encouragent, qui nous fortifient et qui nous encouragent à continuer à aller de l'avant. Chers amis, lorsque nous sommes animés du même zèle que Dieu pour atteindre toutes les nations du monde, nous sommes en mesure de prier comme le psalmiste le fait dans le psaume 67. On peut le voir, ce psaume, comme un cantique, on peut le voir aussi parce qu'il est vraiment écrit sous une forme, la forme d'une prière aussi, mais la manière dont les versets 1 et 2 sont liés, et je vous invite ceux qui ont leur Bible à suivre le passage, eh bien, la manière dont les versets 1 et 2 sont liés ensemble, nous montre jusqu'à quel point Dieu est à l'œuvre dans l'histoire pour sauver le monde. Remarquez le lien qu'il y a entre la bénédiction de Dieu pour Israël, au verset 1, qui utilise le « nous ». Le psalmiste est un Israélite, donc il parle du peuple d'Israël. Et le fait qu'Israël soit une bénédiction pour les nations, verset 2. Il dit que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur nous, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Alors, si le salut vient des Juifs, eh bien, Dieu ne veut pas conserver ce salut-là pour les Juifs, il a un plan pour les nations, et ce salut, à un moment donné, est transmis aux nations à travers la personne de Jésus-Christ. Ce lien qu'il y a entre être béni et devenir une bénédiction pour les nations signifie que lorsque le psalmiste a écrit cette prière, il s'est rappelé la promesse que Dieu avait faite à Abraham dans Genèse chapitre 12, versets 2 et 3, lorsqu'il lui a dit qu'à travers lui, il ferait naître une grande nation et qu'il la bénirait. « Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction, dit-il. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Cette prière que nous retrouvons dans le psaume 67, n'est pas sortie comme par hasard dans l'imagination du psalmiste. Elle nous rappelle comment Dieu s'y prend, et je le répète encore une fois, je vais le répéter régulièrement, dans l'histoire pour sauver le monde. Cette prière, elle est intimement liée avec l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Elle nous rappelle encore ce matin que le cœur de Dieu n'a pas changé en ce qui concerne le salut du monde et que son plan consiste à faire en sorte de bénir toutes les nations. Dieu va accomplir cette alliance de manière décisive, et non pas définitive, mais décisive, lorsque Jésus-Christ, qui est de la descendance d'Abraham, est venu sur la terre, vivre une vie parfaite, subir le châtiment que nous méritions pour nos péchés, et ressusciter, de sorte que quiconque croit à l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix pour lui, peu importe le pays où il est né, devient un enfant d'Abraham et hérite de la bénédiction que Dieu a accordée à Abraham. Nous allons donc lire cette prière qui se trouve dans le psaume 67, nous allons la relire, en nous rappelant que cette promesse faite à Abraham s'est déjà réalisée lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'elle se poursuit aujourd'hui à travers nous, chrétiens, qui faisons partie de l'Église de Jésus-Christ. Lisons ensemble. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller sur son visage sur nous. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut pour toutes les nations. J'aurais aimé la lire en français courant, mais en français courant, c'est un petit peu dilué au niveau des expressions. Mais ici, on va en parler, je ne vais pas devancer ce que je veux dire, mais on voit tout de suite qu'il parle que Dieu fasse grâce, que Dieu bénisse, qu'il fasse briller sur son visage sur nous. Qu'est-ce que ça veut dire, faire briller son visage sur nous? Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te louent. Oh Dieu, tous les peuples te louent. Et c'est important pour le psalmiste que les peuples louent, parce que là, il va le répéter une deuxième fois, verset 5. Que les peuples te louent, c'est important pour lui, la louange. Verset 5, les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse. Pardon, verset 6, qui te loue, dépendant de la version que vous avez, malheureusement. Les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse, c'est-à-dire elles sont dans la joie, car tu juges les peuples avec droiture et que tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, oh Dieu. Tous les peuples te louent. Il n'y en a pas aucun. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Et à travers tout ça, le psaume parle d'une bénédiction matérielle des biens de la terre. Il ne s'adresse pas à un monde industrialisé, à un monde informatisé. Il s'adresse à un monde d'agriculteurs dont la survie dépend de ce qu'ils vont récolter à la fin de la moisson. Mais aussi, à travers tous ces versets, il sous-entend la bénédiction spirituelle aussi. Il y a une moisson spirituelle que nous devons nous attendre, et aujourd'hui, elle est confiée à l'Église. La première chose que nous verrons dans cette prière, c'est le plan de Dieu pour le monde. Dieu va inspirer le psalmiste à écrire cette prière afin que nous puissions voir non seulement le but pour lequel le psalmiste a écrit ce psaume, mais le merveilleux plan de Dieu pour le monde qu'il a créé. Et ça tombe pile poil sur le fait qu'on commence mission vacances et qu'on va faire l'évangélisation, mais ce psaume nous rappelle ce à quoi nous sommes appelés en tant que peuple de Dieu, à pas garder ce trésor que nous avons reçu, qui nous a transformés, qui nous a donné une espérance vivante, celle de la résurrection, mais de ce trésor qu'on puisse le partager aux autres. Il n'est pas question pour l'Église de trouver les gens du Nord indignes de recevoir ce message-là, parce que nous ne méritons pas plus que ces gens. Nous ne méritions, heureusement que nous avons mérité de la grâce de Dieu. Heureusement que Dieu a eu pitié de nous et qu'il a placé à un moment donné sur notre chemin, en tout cas pour moi qui viens du monde, pour les gens de l'Église qui sont nés dans l'Église, avaient entendu l'Évangile toute votre vie, entre guillemets, mais pour celui qui vient du monde, moi je rends grâce à Dieu d'avoir placé un chrétien évangélique sur mon chemin un jour, qui a eu le culot, l'audace, le courage de venir m'annoncer l'Évangile pour la première fois. Et le Seigneur ici nous rappelle qu'à l'extérieur, il y a des gens qui n'ont jamais, jamais entendu l'Évangile. Et notre sœur nous a partagé son témoignage. Elle ne vient pas de l'Église. Et c'est encourageant de voir l'œuvre que Dieu accomplit à travers cette sœur et l'œuvre qu'il va accomplir à travers vous. Parce que Dieu nous bénit, non pas pour qu'on garde la bénédiction pour nous, mais toujours pour que la bénédiction, elle se répande ailleurs, pour qu'on puisse répandre cette bénédiction ailleurs. Alors, en examinant ce psaume, eh bien, nous constatons que le but de Dieu, c'est d'être connu de tous, loué, glorifié et respecté parmi toutes les nations de la terre. C'est pour moi qu'il est dit, c'est écrit dans les différents versets, on va décortiquer ça ensemble. C'est la raison pour laquelle il a créé le monde, c'est la raison pour laquelle il a choisi Israël, c'est la raison pour laquelle le Christ est mort et que l'Église existe. L'Église existe pour faire connaître ce Dieu que les nations ne connaissent pas, afin qu'il puisse le louer, se réjouir en lui, se glorifier, le craindre et reconnaître qu'il est le seul vrai Dieu. J'aimerais qu'on examine rapidement ces versets, afin de constater ce que je viens de vous dire par nous-mêmes. Verset 2. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix... Le premier but de Dieu, c'est que toutes les nations le connaissent. Alors, verset 2. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Et comment les gens, les nations peuvent-ils connaître le salut de Dieu si personne ne leur annonce ce salut? Et l'Église, elle était fondée, Christ est mort pour ça, pour que son Église, il était la lumière du monde, qu'il dit quand il était avec nous, il a dit maintenant, vous êtes la lumière du monde, et c'est à nous de transmettre ce message qui est extraordinaire, ce message de l'Évangile. Notre sœur nous a dit tantôt qu'elle avait essayé toutes sortes de choses. Nous avons entendu le témoignage de Véronique lors de son baptême la semaine passée. Il y a 2 semaines, ça passe vite. Hein? Et elle a essayé toutes sortes de choses dans sa vie aussi, mais il y avait toujours ce vide de l'intérieur qui demeurait. Et à travers sa recherche spirituelle, et lorsqu'ils ont entendu l'Évangile, et lorsqu'ils ont entendu l'Évangile qui parle de Christ, eh bien, leur vie, il y a quelque chose qui a commencé à bouger dans leur cœur. Le Saint-Esprit a commencé à agir dans leur vie et pour les amener à naître de nouveau. Et on s'en réjouit tous. Tous ceux qui sont passés par la nouvelle naissance doivent s'en réjouir parce que c'est parce que Dieu est un Dieu gracieux et que Dieu a décidé, a choisi. Nous n'avons pas choisi, mais que Dieu a choisi que nous passions l'éternité avec lui. C'est extraordinaire. Dieu n'a pas besoin de personne pour vivre. Si on vit tout seul en appartement, on risque de faire des dépressions. Mais Dieu tout seul dans son ciel, il ne fera pas jamais de dépression. Dieu se suffit lui-même. Mais c'est une grâce que Dieu nous accorde de nous avoir choisi pour pouvoir passer l'éternité avec lui, avec tout ce qu'il nous réserve, frères et sœurs. Alors, c'est extraordinaire. Deuxièmement, le deuxième but de Dieu, après celui que les nations le connaissent, c'est que toutes les nations le louent. Verset 5 et verset 3. Les peuples te louent, Dieu, tous les peuples te louent. Le troisième but de Dieu, c'est que toutes les nations se réjouissent en lui. Verset 4. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, c'est-à-dire dans la joie. Le quatrième but de Dieu, c'est qu'il soit craint et respecté parmi toutes les nations. Verset 7. Que toutes les extrémités de la terre le craignent. Dans cette prière écrite par le psalmiste, nous ne voyons pas seulement le but d'un homme, mais également le but de Dieu. Révéler aux nations qu'il est le seul vrai Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Et son but en créant le monde, c'est d'être connu pour ce qu'il est, loué pour ce qu'il a fait, glorifié parce qu'il est le seul et qu'il en est digne. Et pourquoi nous devrions le craindre si nous détournons de lui pour nous tourner vers d'autres dieux? Voilà la raison pour laquelle le monde existe et que l'Église existe. Il est écrit au verset 3, « Ainsi l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi les nations. Toutes les nations doivent reconnaître qu'il est le seul Dieu vivant et qu'il n'est pas le Dieu d'aucune religion. » Et j'ouvre une petite parenthèse ici. J'entends souvent, même de la bouche des chrétiens, dire que Allah est Dieu, c'est le même Dieu. Il faut faire très attention parce que on ne sait pas du tout le même enseignement par rapport à Jésus. Donc, il y a un seul vrai Dieu, et c'est le Dieu de la Bible. Les autres, eh bien, ça demeure des idoles. On en parle entre nous, hein, mais ça demeure des idoles pour les autres. Ça demeure, on ne peut pas comparer ça au Dieu de la Bible. Voilà. Alors, je voulais le dire, parce que c'est important. Toutes les nations doivent connaître qu'il est le seul vrai Dieu vivant et qu'il n'est le Dieu d'aucune religion. Ce verset nous rappelle que le prophète Isaïe a fait un jour, à la prière que le prophète Isaïe a faite un jour, il dit, c'est moi qui suis l'Éternel, que Dieu a révélé à Isaïe, excusez-moi, c'est moi qui suis l'Éternel et qu'il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu, j'ai été équipé pour le combat, alors que tu ne me connaissais pas. C'est afin que l'on sache qu'en dehors de moi, il y a néant. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y a pas d'autre. Et frères et sœurs, en dehors de Dieu, en dehors de la personne de Jésus-Christ, en dehors de Dieu fait homme, il n'y a aucun moyen pour quiconque d'être sauvé. Aucun moyen. Et si Jésus-Christ n'est pas Dieu, eh bien, on n'a rien à espérer de lui. Jésus n'est pas venu pour sauver les anges, il n'est pas le chef des anges, il est venu pour sauver les hommes, il est Dieu, il est venu sur la terre, il est devenu un homme pour payer le prix de nos péchés. Il a vécu tout ce que nous avons vécu, il était tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché, nous dit la parole. Et aujourd'hui, eh bien, c'est pas grâce à nos bontés, c'est pas grâce à nos qualités, à nos moyens que nous sommes sauvés, mais c'est uniquement grâce au sacrifice que Christ a accompli sur la croix pour vous et pour moi. Frères et sœurs, la mission donnée à l'Église serait la chose la plus audacieuse à accomplir dans le monde si Dieu n'était pas ce Dieu qu'il décrit dans sa parole. Dans le psaume 67, le psalmiste prie pour que toutes les nations du monde se tournent vers lui, le connaissent, le louent, le glorifient et le craignent, lui seul le vrai Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu dans le monde pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, dont nous faisons partie autrefois. Et il a prouvé cette prière en la signant avec son propre sang. Nous savons qu'il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, et comme le Père m'a envoyé, lui aussi, il nous envoie, a-t-il dit. Et aujourd'hui encore, il envoie des ambassadeurs aller à la rencontre de tous les peuples, en leur disant que son but, c'est qu'ils le connaissent. Jean 17, 3, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et de connaître Jésus-Christ. Dans quel but? Afin que nous puissions le louer, afin que nous puissions nous réjouir en lui, afin que nous puissions le respecter comme étant le seul vrai Dieu. Ainsi donc, frères et sœurs, la première chose que Dieu veut pour les nations, que Dieu veut que les nations sachent à son sujet, c'est qu'il est le seul et unique vrai Dieu. La deuxième chose au verset 4 que Dieu veut que les nations sachent, c'est qu'il est juste dans ses jugements. Que les nations se réjouissent et chantent de joie, car tu jugeras les peuples avec droiture. Frères et sœurs, un jour viendra où Dieu jugera les nations et Dieu ne sera pas partial. Personne ne sera condamné à cause de la couleur de sa peau, la taille de son cerveau, son lieu de naissance ou la bonne réputation qu'avait sa famille. Aucun pot de vin, aucune négociation, aucun plaidoyer flatteur ne sera accepté. Tout se déroulera en ayant comme base la justice irréprochable de Dieu. Que ce loi soit connue de tous les peuples de la terre, dit le psalmiste, ils seront mis sur le même pied d'égalité qu'Israël en matière de jugement. La norme de justice sera la norme pour tous. Le seul critère pour être trouvé juste devant Dieu sera celui de la perfection. Et le seul remède face à notre échec et à notre rébellion, à tous, c'est premièrement la vie parfaite accomplie sur la terre par Jésus pour tous ceux qui croient en lui, et deuxièmement, le châtiment qu'il a supporté pour tous ceux qui auront cru en lui. L'obéissance parfaite que Jésus a manifestée envers Dieu n'est pas un remède donné parmi tant d'autres que Dieu à ceux qui sont membres de l'Église. C'est le seul remède prévu par Dieu pour tous les descendants d'Adam. Ainsi de même, dit Paul, par la faute d'un seul homme, Adam entraîne la condamnation de tous les hommes. De même, l'œuvre juste d'un seul Jésus-Christ libère tous les hommes du jugement et les fait vivre. Si une personne a reçu Jésus comme son seul espoir devant Dieu d'être sauvée, elle sera sauvée. Quiconque n'aura pas fait ce choix sera perdu pour l'éternité. Dieu vise à être connu comme un Dieu qui pratique la justice. La troisième chose que Dieu veut que les nations sachent, c'est qu'il exerce un pouvoir souverain. Verset 4b. Tu conduis les nations sur la terre. Tu conduis les nations sur la terre. Plusieurs nations se vantent de leur puissance et de leur indépendance en tant qu'État souverain. Et aujourd'hui, avec tous ceux qui nous dirigent, c'est courant d'entendre ces choses. Et quand le seul Seigneur les entend, ils se marient, car il a créé à partir d'un seul homme tous les peuples, et il les a établis sur toute la terre. Il a fixé pour eux la période des saisons et les limites des régions qu'ils devaient habiter. L'auteur des Proverbes écrit ceci, « L'esprit du roi est comme un ruisseau que la main du Seigneur dirige où il veut. » Daniel dit, dans Daniel 2:21, « Dieu est le maître du temps de l'histoire, il renverse les rois et les établit, ou les établit. » Daniel 5:32, « Personne ne peut s'opposer à ses interventions ou lui reprocher ce qu'il fait. » Dieu vise à se faire connaître comme étant le souverain suprême parmi toutes les nations, dans le but de les guider. Il n'est pas souverain, ils ne sont pas souverains, un seul est souverain, et c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'était donné dans le ciel et sur la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et sachez-le, moi qui ai tous les pouvoirs, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et je bâtirai mon Église. » Et ce qui devrait en tout cas être une source de motivation et de réconfort pour nous, lorsque nous allons aller rencontrer les gens de l'extérieur, à l'extérieur de l'Église cette semaine, c'est de nous rappeler que Jésus est avec nous tous les jours. Jésus sera à nos côtés. Ce qu'il veut, c'est simplement qu'on partage l'amour que nous avons reçu de Jésus, cette rencontre qui nous a marqué, de quelle façon elle nous a marqué, les changements qu'elle a opérés dans notre vie. C'est ce que les gens ont besoin d'entendre. Des fois, quand on parle uniquement de Jésus, les gens voient Jésus tellement haut qu'ils trouvent que c'est inaccessible ce qu'il a accompli. Mais on sait bien qu'il habite en nous et que dans Romains 8:29, eh bien, l'apôtre Paul dit que le but de Dieu après nous avoir sauvés, c'est de nous amener à ressembler de plus en plus à la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce que les gens ont besoin, c'est ce que les gens ont besoin de voir à travers nous quand on les rencontre. On n'est pas là pour condamner les gens. Les gens se sentent déjà assez condamnés à l'extérieur. On est là pour leur parler de la grâce de Dieu. Leur parler comment Dieu les aime. Que Dieu ne rejette personne. C'est Jésus qui l'a dit, hein. Je ne rejette personne qui vient à moi. Dieu ne rejette personne. Et on peut, si on laisse parler les gens, comme notre sœur a dit tantôt, ce qui est important, c'est que, je vais essayer de ne pas m'égarer, je vais mettre une remarque. Ah ouais. On va savoir où je suis rendu. Ça, c'est intéressant à sortir mon crayon. C'est ça, hein, quand tu as 70 ans. Je voulais dire quelque chose sur mon crayon et je ne me souviens plus ce que je voulais dire. Voilà. La quatrième chose que Dieu veut que les nations sachent, c'est qu'il est un Dieu gracieux. Le seul vrai Dieu qui est juste dans tous ses jugements et qui règne souverainement sur toute sa création est un Dieu de grâce et il veut que les nations le sachent. Maintenant, je viens de me rappeler ce que j'avais oublié. Il y a différentes façons d'évangéliser les gens. Quand les gens, on les invite à l'Église, il y a une façon de prêcher le message, on peut l'annoncer le message. Quand on va à l'extérieur de l'Église, c'est nous qui allons à la rencontre des gens. La première chose qu'on doit sûrement faire, c'est de les écouter. Et si on prend le temps de les écouter, on va gagner le droit d'être écouté à notre tour. Mais on ne va pas à l'extérieur pour agresser les gens. La parole dit qu'il faut beaucoup de sagesse pour gagner les âmes. Et il faut être capable, en Jésus-Christ, d'être capable de pouvoir voir de voir l'ouverture d'esprit de la personne quand on l'écoute puis quand on commence à lui parler. Et Dieu est capable encore de faire des miracles aujourd'hui. J'espère que vous y croyez. Moi, j'y crois parce que sinon, on ne ferait pas ça chaque année, Mission Vacances. Mais Mission Vacances, c'est aussi l'occasion pour l'Église une fois par année, de sortir tous ensemble à l'extérieur pour partager l'amour que Jésus-Christ a manifesté, que Dieu a manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Et notre sœur, elle a dit que c'était pas facile. Avant qu'elle parte, bon, gloire à Dieu, on a bien fonctionné ensemble, elle avait des appréhensions, on a mis ça au clair, et c'est vrai qu'elle a été bénie la première journée. Il y a trois personnes qu'ils ont laissé rentrer, ils voulaient nous payer un goûter et tout ça. On a pu partager, et ça a détendu notre sœur. Mais il faut pas quand les gens ouvrent la porte, faut commencer à leur bombarder de l'évangile. C'est du chinois pour eux, c'est du jargon évangélique. On a des difficultés à comprendre. Ils ont besoin d'être écoutés, ces gens-là. Moi, je pars avec l'idée, c'est ce qui m'encourage. Derrière chaque porte que vous frappez, il y a un drame qui se joue. Derrière chaque porte. Derrière chaque porte. Il y a un drame qui se joue. Il peut y avoir un abus de toutes sortes. Ça peut être une femme qui est battue. Ça peut être un homme qui est battu parce que ça arrive. Ça peut être la prise, la dépendance de drogue, la dépendance d'alcool. Derrière chaque porte que vous frappez, il y a un drame qui se joue. Parce que les gens ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'ils sont esclaves de celui qui est l'esprit de ce monde, qui dirige ce monde, le diable. Et on n'est pas là pour les rendre encore plus esclaves, on est là pour leur dire qu'en Christ, ils peuvent être libérés de tout ce qui les maintient esclaves dans leur vie. Dieu parle même à ça. Maintenant, c'est vrai que c'est pas facile pour vous, mais je parlais avec ma soeur hier soir, plus vous sortez à l'extérieur, plus ça devient facile, plus vous êtes à l'aise pour parler aux gens, plus vous trouvez les mots, parce que le Saint-Esprit vous guide aussi, plus vous trouvez les mots pour partager aux gens ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Frères et sœurs, les gens, c'est vrai qu'ils ont besoin de l'Évangile, c'est essentiel pour le salut, mais ils ont besoin aussi d'être encouragés. Demandez à un psychiatre de vous enlever vos médicaments, ils ne veulent pas. Mais non, c'est leur gagne-pain. Mais on n'est pas là pour leur offrir des médicaments. On est là pour leur offrir un miracle que Dieu peut accomplir encore dans leur vie, de les faire passer de la mort à la vie, de faire en sorte de les amener à naître de nouveau et pouvoir commencer une nouvelle vie dans la personne de Jésus-Christ. La quatrième chose que Dieu veut que les nations sachent qu'ils soient, c'est qu'il est un Dieu gracieux. Ce que nous dit le psalmiste au verset 1 et 2, que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller sur sa face sur nous. Ainsi, l'on connaîtra la voix sur la terre, sa voix sur la terre et son salut parmi les nations. Frères et sœurs, Dieu veut que les nations, Dieu veut que les gens sachent qu'il est un Dieu gracieux qui sauve. Il n'est pas gracieux seulement avec Israël, puisqu'au verset 4, il est écrit que les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse. Si Dieu limitait sa grâce uniquement à Israël, il n'y aurait pas de joie parmi les nations. Voilà pourquoi la bonne nouvelle qui retentit dans le monde entier, depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix, s'appelle l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui parle de ce Dieu qui fait grâce. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Titre chapitre 2, verset 11. Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu, vous voulez savoir où elle se trouve? Elle est personnifiée par la personne de Jésus-Christ. Il est lui-même la grâce que Dieu a envoyée pour sauver l'humanité. Paul dit, car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les hommes. Et quand Paul a résumé son ministère et la tâche que Dieu lui avait confiée, il l'a résumé ici, acte 20, 24, proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'on peut pas parler de la crainte de Dieu. Ça veut pas dire qu'on ne doit pas parler du péché. On ne doit pas rester accroché uniquement à ça. Mais on ne peut pas parler de l'amour de Dieu si on ne parle pas du péché. C'est ça le problème. Pourquoi Dieu nous a aimés? En quoi Dieu nous a aimés? Pourquoi Dieu s'est intéressé à nous? Alors, il faut parler du péché. Il y a une manière d'en parler du péché. Sans le diluer non plus. Pour résumer ce que nous venons de voir, le grand plan de Dieu dans le monde, c'est qu'il veut être loué, connu, loué, glorifié et craint. Et en ce sens, et en ce qui le concerne, il veut que les nations le sachent. Il est le seul Dieu vivant, le Père de Jésus-Christ. Il est infiniment juste et saint dans toutes ses voies, jugeant de façon juste, que ce soit sur la croix pour les croyants ou en enfer pour ceux qui rejettent sa vérité. Il est souverain sur toute sa création, ainsi que sur l'appel qu'il a donné à son Église d'annoncer l'Évangile de la grâce qui parle de Jésus-Christ à toutes les nations. Et il manifeste sa grâce envers tous ceux qui viennent à lui à travers Jésus. Chers amis, Dieu nous bénit non pas pour que les gens soient éblouis face à ce que nous avons reçu de lui. Dieu nous bénit afin que nous puissions témoigner aux autres que s'il est notre sauveur, cela ne vient pas de nous, mais de lui. Et être capable de dire aux gens, ne regardez pas à moi, mais regardez à Dieu qui m'a accordé cette grâce merveilleuse. Qu'il puisse recevoir toute la gloire et tout l'honneur qui lui revient. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des réservoirs de la grâce de Dieu et de partager cette grâce aux autres. Dieu ne nous bénit jamais uniquement pour le plaisir de nous bénir. Dieu nous bénit afin que nous devenions une bénédiction pour les autres. Il en a toujours été ainsi. C'est ce qu'on appelle répandre et partager la grâce de Dieu avec le monde entier. Parce que la bénédiction qu'il va accorder à l'humanité tout entière n'est rien de moins, n'est rien d'autre que sa grâce et son Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce qui se passe dans votre vie en ce moment, si ce que le psalmiste dit à propos de Dieu est vrai, et si vous connaissez Dieu, vous devriez vous réjouir ce matin. Nous devrions nous réjouir que Dieu règne sur le monde. Nous devrions nous réjouir que Dieu est en contrôle de toutes choses et qu'il guide toutes les nations. Nous devons nous réjouir de toute la bonté que Dieu manifeste dans notre vie de tous les jours et nous devrions nous réjouir que le salut de Dieu soit disponible pour tous. N'est-il pas écrit que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Je suis toujours étonné, frères et sœurs, de constater que nous sommes chaque jour en présence d'un Dieu qui déverse dans nos vies toutes sortes de bénédictions et que trop souvent nous l'oublions. La première bénédiction, c'est que Dieu nous bénit en nous faisant la grâce de recevoir son salut dans la personne de Jésus-Christ. La deuxième bénédiction qu'il nous accorde, c'est celle de nous montrer le chemin à suivre et le montrer aux autres afin qu'ils louent Dieu pour cette grande bénédiction qu'il leur accorde. La troisième bénédiction que Dieu nous accorde, c'est son soutien. Nous pouvons compter sur lui jour après jour. Nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes les bénédictions que nous recevons. Et jeudi, à la réunion de prière, il y avait beaucoup de jeunes chrétiens et on était quand même beaucoup, hein, quand Véronique? C'était beaucoup. Et juste avant le moment de louange, j'ai demandé aux jeunes chrétiens, à tous ceux qui étaient présents, si vous aviez un sujet de louange, le premier sujet de louange que vous deviez exprimer à Dieu, quel serait ce premier sujet? Mais il y a eu, toutes les réponses ont été bonnes. Mais je pense, en tout cas, je peux me tromper, hein. Je suis un simple être humain. Mais je pense que le premier sujet de louange, c'est de dire au Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce. Parce que toutes les autres louanges découlent de la grâce de Dieu. Si Dieu ne nous fait pas grâce, on n'a rien à dire à Dieu. Dieu, merci pour ta grâce. Les frères et sœurs vont pouvoir dire, pour chaque bénédiction que tu me donnes, je reconnais que c'est une grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour la grâce que tu as faite à Marie-Thérèse. Merci pour la grâce que tu as faite à Véronique. Merci pour la grâce que tu as faite à Catherine, qui a pu rendre témoignage des changements que tu as opérés dans sa vie, que tu as opérés dans leur vie. Frères et sœurs, si ce n'était pas de la grâce de Dieu, moi je serais pas à ma place ici ce matin, parce que j'aurais jamais entendu l'Évangile, parce que je serais encore perdu dans mes péchés. Et vous seriez tous perdus dans vos péchés si ce n'était pas de la grâce de Dieu. Quel Dieu merveilleux nous avons. Et frères et sœurs, on n'est pas obligé de se mettre à genoux, passer des heures à louer le Seigneur. On peut faire toutes sortes de choses, louer le Seigneur. Lancer des louanges au Seigneur. Nous devons rendre gloire à Dieu pour toutes les bénédictions que nous recevons. Quelqu'un me disait ce matin, j'ai loué le Seigneur parce que quand je me suis levé, mes deux jambes m'ont tenu, parce que j'ai des problèmes aux jambes. Ma jambe m'a tenu. Et j'ai remercié le Seigneur d'être en santé, de pouvoir marcher normalement ce matin. Frères et sœurs, la santé, c'est pas un droit acquis, hein. C'est une grâce. C'est une grâce. On est toujours dans un corps mortel, hein. Pas encore été racheté, ce corps, hein. On n'a pas encore reçu le corps glorifié. Il n'y a pas beaucoup qui meurent, hein, sans être malade. Il n'y a pas beaucoup de gens qui meurent en santé. C'est une grâce d'être en santé le matin. C'est une grâce de dire, Seigneur, merci, merci, parce que tout fonctionne bien, merci. Merci pour la grâce que tu m'accordes de pouvoir vaquer à mes occupations. Lorsque nous nous réveillons et que nous réalisons finalement qu'il nous accorde non seulement sa grâce jour après jour, qu'il nous montre le chemin à suivre à travers sa parole, nous ne pouvons faire autrement que de le louer et de nous efforcer de vivre comme il le demande, afin qu'il reçoive toute la gloire et ce jusqu'aux extrémités de la terre. Permettez-moi de vous dire pourquoi c'est si important pour nous en tant qu'Église. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les gens soient disposés à laisser Dieu les diriger si nous ne permettons pas nous-mêmes à Dieu de nous diriger. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les gens désirent bénéficier ou recevoir la grâce de Dieu si nous ne témoignons pas que nous sommes nous-mêmes des bénéficiaires de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas espérer voir les gens avoir le cœur rempli de joie au lieu de la tristesse si nous ne montrons pas dans notre vie de tous les jours que la joie de Dieu habite dans nos cœurs. Parce que finalement, toutes les bénédictions que nous avons reçues de Dieu ne sont pas pour notre gloire, mais pour sa seule gloire à lui et pour qu'il soit honoré. Le psalmiste le déclare donc en disant ceci au verset 7, « Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craindront. » Frères et sœurs, Dieu veut que tous les peuples reconnaissent son autorité, lui manifeste un profond respect, le glorifie en toutes choses, l'adore, rend témoignage de la grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ et qu'il lui obéisse. Si nous voulons que les autres rendent gloire à Dieu, nous devons lui rendre gloire afin que Dieu fasse briller son visage sur nous. Et si nous, pour ceux qui ont leur Bible, si nous examinons attentivement le verset 1, nous constatons que le psalmiste a été inspiré par une prière que Moïse a faite dans Exode chapitre 33, parce qu'il utilise sensiblement les mêmes mots, dans laquelle il demandait, Moïse a demandé trois choses à Dieu. Et on va terminer avec ça, hein? Trois choses à Dieu. La première chose qu'il a demandé à Dieu, c'est ceci. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Et le psalmiste ici, il parle des voies dans le psaume. Il parle. Il dit, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. L'Éternel répondit, Moïse, je ferai ce que tu me demandes. La deuxième chose qu'il a demandé à Dieu, c'est ceci. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras de tous les peuples et qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Enfin, Moïse dit à Dieu, c'est la troisième, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Et Dieu veut faire luire sa face sur notre visage. Vois ma face, car l'homme ne peut pas voir et vivre. Ça, Moïse, je ne peux pas répondre à cette prière. Frères et sœurs, c'était vrai, jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais là, depuis que Jésus est venu, lorsque vous regardez son visage, vous voyez le visage de Dieu. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand vous regardez ses yeux, vous avez devant vous le regard de Dieu. Quand vous l'avez entendu parler, vous avez entendu la voix de Dieu vous parler. Et un jour, nous verrons tous Dieu dans toute sa gloire, lorsque tous les rachetés du monde se présenteront devant son trône. Nous le verrons tel qu'il est. Quelle grande bénédiction ce sera. Et ce, à cause de la plus grande grâce que Dieu nous a faite un jour, lorsqu'il a envoyé son Fils unique, mourir pour nos péchés, le ramener de la mort à la vie, pour qu'il puisse vivre dans nos cœurs par son esprit, et nous accorder sa bénédiction tout au long de notre pèlerinage terrestre. Frères et sœurs, lorsque le psalmiste demande dans sa prière que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse en faisant briller sa face sur nous, il est en train de nous dire ceci, que le monde puisse voir Jésus vivre en nous pour que cette prière se réalise aussi pour nous. Frères et sœurs, que le Seigneur Jésus, que nous ayons la certitude que Christ, eh bien, vit en nous, que nous reflétons finalement le caractère de Christ quand nous allons sortir cette semaine à l'extérieur. Nous allons prendre des temps de prière, qu'on puisse prier ensemble. S'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, on n'est pas obligé de le confesser publiquement, mais au moins qu'on ait l'humilité de dire, Seigneur, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Et ça, Seigneur, hein, ça ne fera pas briller ta face sur mon visage. Seigneur, s'il y a des choses dans ma vie qui t'empêchent de manifester ta puissance à travers moi, Seigneur, tu veux me le montrer, que je puisse le confesser. Et on le sait, hein, il est fidèle et juste pour vous confesser tout péché. C'est le Dieu de grâce. Alors montrons sans honte autour de nous l'amour et la joie qui nous habitent, que notre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient le bien que nous faisons et qu'ils louent notre Père qui est dans les cieux. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous.